France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui a une passion pour les mélanges, mélange des lieux et des époques. Comme si ce passionné d'histoire avait parfois un peu de mal à vivre avec la sienne. Le dernier album de sa série, Silex and the City, s'appelle L'homme de Cro-Macron. Son dernier Lucky Luke, un cow-boy à Paris. Et pourtant, Jules n'est pas à l'ouest. C'est même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Son parcours en est la preuve. On en parlera avec lui jusqu'à 19h. Lui qui fait du dessin de presse depuis son plus jeune âge nous donnera sa lecture de l'actualité de la semaine. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage de Géraldine Allot dans les Ardennes auprès de ceux ou plutôt de celles qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. On parlera aussi bande dessinée à quelques jours du festival d'Angoulême. On n'oublie pas les bonnes ondes de Sandrine Houdin, comme tous les vendredis. Ce soir, une dictée coquine. Je ne vous en dis pas plus à ce stade. À 19h20, au téléphone sonne, question sur les inégalités en matière d'accès aux services publics. Nous serons avec la secrétaire générale de la FSU, Bernadette Groison, avec le géographe François Tollel et avec Nicolas Canounou qui s'occupe de l'accès aux droits chez le défenseur des droits. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Jules.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. C'est un plaisir de vous recevoir. Faut-il rappeler que vous êtes à la fois dessinateur, auteur de bandes dessinées, scénariste et puis aussi passionné d'actualité, ce qui fait notre affaire ce soir, parce que c'est une émission où on va parler évidemment de l'actualité de la semaine.
Voilà, c'est mon terreau depuis tellement d'années. Effectivement, moi j'ai commencé à dessiner, même étant enfant, en parlant de ce que j'entendais à la télévision, en commentant, en recyclant, parce que finalement ce métier d'humoriste, de dessinateur, c'est déjà du commentaire de commentaires. Donc on est vraiment dans une espèce de recyclage des choses, et en même temps ça permet, justement c'est presque vertueux, parce que ça permet de mieux digérer les choses.
Alors, ce qui est particulier chez vous, on vous connaît notamment pour votre série Silex and the City, Jules, c'est que vous nous transportez dans une époque lointaine et en même temps, vous nous parlez d'aujourd'hui. Alors, je fais référence, par exemple, au dernier album de cette série, L'homme de Cro-Macron. Ça commence de la façon suivante. Le mec, il a pas 40 ans et il veut réformer le paléolithique. Alors, quand l'album est sorti, c'était quoi, l'été dernier, les gilets jaunes étaient encore dans les boîtes à gants, mais Emmanuel Macron, c'était déjà Emmanuel Macron avec ses premiers de cordée, et comme vous le dites, son mental de Darwiner. Il est facile à dessiner, Emmanuel Macron, Jules ?
Finalement, oui. En fait, bon, pour un dessinateur, techniquement, il faut juste capter une ou deux choses. Moi, c'était la fixité de son regard, comme ça, deux espèces de billes, il ne cille jamais. Et ça, c'était quelque chose d'assez frappant. Moi, ce qui m'avait frappé dès ses discours au pied de la pyramide du Louvre, à vrai dire, vous avez raison, parce que ça fait longtemps que cet album avait été dessiné, finalement, et comme souvent, je le vois avec les dessinateurs d'humour, il y a une dimension prophétique. C'est-à-dire qu'on capte l'air du temps, notre métier c'est ça, c'est d'avoir des capteurs très 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 fins et de sentir ce qui va arriver. Alors Silex and the City, aussi pour le dessin animé qui est passé sur Arte, très souvent les gens disent « Ah, comment est-ce que vous avez fait pour réagir aussi vite à une actualité qui s'est passée le matin même ou la veille ?» Mais en fait, c'est des choses qui ont été faites un an, deux ans auparavant, mais déjà, on sentait que ça allait advenir. Et cette histoire d'homme de Cro-Macron, c'est marrant parce que cet album, ben là évidemment, il y a la branche insoumise. C'est les primates qui sont pas du tout d'accord avec cette espèce de bipédie pour tous, hein, qui est un petit peu à marche forcée, qui l'impose à la sélection naturelle. Mais tout ça, c'est-à-dire les gilets jaunes, bon, on n'avait pas le nom. Alors ça, je suis pas allé jusque là dans le côté
personne
sorcier.
Trouvé ça, hein.
Mais en fait, le phénomène existe. Et alors, c'est très marrant d'imaginer des gens qui occupent les ronds-points avant l'invention de la roue.
Alors on va imaginer ce que ça pourrait donner. Vous avez dit, ça se décline en version sur les écrans. Hein. On va voir justement ce que ça donne.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Ce qui est génial, c'est que ça marche très bien en radio aussi, hein, finalement.
Oui, en fait, on pourrait presque... Moi, j'ai un humour très verbal. Donc, que ce soit dans les dessins animés ou que ce soit dans les albums, très souvent, je pars justement sur la distorsion d'un mot, le changement d'un slogan, cette espèce de petit pas de côté, en fait, qui est évidemment de l'ordre du clin d'œil, du jeu de mots. Mais au-delà du jeu de mots, en général, ça fait sens. C'est-à-dire que ça permet de se... réemparer de quelque chose qui nous est donné, comme tout cuit, une formule, un slogan politique, une formulation publicitaire ou marketing, et puis qu'on répète bêtement, on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus intelligents les uns que les autres, je pense qu'on est tous habités par un langage qui nous est refourgué. Et de changer quelque chose, de dire voilà, de prendre des grands titres, moi les titres de mes séries, bah que ce soit 50 nuances de grec, que ce soit Silex and the City, que ce soit Da Vinci Digicode, La planète des sages, tout ça à chaque fois, bah c'est des thèmes de, c'est des titres de choses de grande consommation, de culture de masse que je distors, et pour dire que on a peut-être quelque chose, notre petit grain de sel personnel à ajouter à cette tambouille qui nous est servie.
Ouais, parce que là, ce qu'on a entendu, c'était juste le générique, mais je voudrais quand même qu'on entende un extrait de l'Auto Sapiens, et on va voir que bah là aussi, c'est incroyablement d'actualité.
4, 5, 6. Bon bah je croyais pas que j'en arriverais un jour à compter les orocs à la fin du mois.
C'est fou hein, même avec nos deux salaires de prof, on a du mal à boucler les fins de glaciation. Qu'est-ce que ça doit être pour les espèces moins favorisées?
Pourtant on bosse, franchement, à part gagner la loterie, je vois pas comment on pourrait faire pour améliorer notre quotidien préhistorique.
Bonjour Tante Spam.
Alors bon, voilà la cousine les Muriel maintenant. T'étais pas censée être en stage au Crétacé Fried Chicken?
Ah bah c'est terminé, oncle Blog. Vous n'allez pas me croire. J'ai gratté un ticket de Bonobo Plus l'autre soir. Et j'ai gagné le gros lot. Alors vous pensez bien, j'allais pas rester à faire le ménage dans un restaurant.
C'est l'actualité, mais c'est indémodable.
Voilà, mais parce que, effectivement, contrairement à du dessin de presse, Silex and the City ou 50 nuances de grec, ça parle d'aujourd'hui, mais c'est grand thème, justement. Et on sait que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on en sera toujours là. En fait, c'est une espèce de permanence humaine, à la fois dans les passions qu'il peut y avoir, ben l'injustice, l'inégalité, les jalousies, les ambitions, toutes ces espèces de petites soupes personnelles qu'on a et sociales, il y a des choses qui vont pas changer. Alors, parfois, il y a quelques petits clins d'œil, il y a des choses très très directes, une petite phrase politique ou quoi. Finalement, c'est pas le plus important, ça passe, mais effectivement, ces questions-là, elles resteront présentes dans notre ADN.
Quand vous disiez tout à l'heure que vous jouez beaucoup avec les mots, c'est vrai. Je regardais sur votre compte Twitter, par exemple, vous avez mis deux dessins, Les temps changent avec deux dates.
Ah oui, c'était 2001, un dessin d'actu.
Voilà. Ouais. Oussama Ben Laden, 2019, Oussamène Benalla. Là, c'est presque Raymond DeVos, ça, Jules.
Bah, je sais pas, ça m'est venu en me réveillant un matin, effectivement, pour commenter un petit peu les évolutions de l'affaire Benalla. Oui, en plus, là, en ce moment, le vrai truc, c'est qu'il y a une actualité tellement déroutante, spectaculaire, étonnante, troublante, inquiétante, parce que moi, quand même, mon carburant, c'est avant tout l'inquiétude, l'angoisse. Je pense que c'est en partage avec beaucoup d'humoristes et de gens qui sont justement du côté un peu du rire, c'est de se protéger et à la fois de se libérer de tout ce qui peut être oppressant. Cette anxiété, ce sens de la catastrophe en route. Moi, mes grandes inquiétudes, évidemment, c'est les questions d'environnement, cette espèce de destruction, d'autodestruction de la planète un petit peu folle vers laquelle on va et contre laquelle on sait pas exactement ce qu'on peut faire. Quand on voit justement la tension, cette espèce de dislocation de la communauté nationale aujourd'hui, et cette espèce de tristesse de voir que moi, ce que j'aime finalement dans le fait de vivre en France, avec toute l'ironie qu'on peut avoir, toute la satire qu'on peut exercer envers nos travers, aujourd'hui, ça débouche sur de l'amertume, sur de la violence et sur de la haine. Et moi, j'aime bien mettre en scène les différentes communautés nationales, les différentes classes sociales, les riches, les pauvres, les gens qui vivent en province, les gens qui vivent à la capitale. C'est-à-dire, et je balaye en général devant ma porte, c'est-à-dire que les personnages de Silex and the City ou de 50 nuances de grec, très souvent, c'est des gens issus de l'éducation nationale, alors du mammouth. Moi, mes parents étaient profs, j'ai failli être prof aussi. Bon, tous ces gens-là, c'est les premiers que j'ai envie de mettre en scène.
Donc on aura une série Silex and the City avec les gilets jaunes, c'est sûr et certain.
C'est sûr, mais alors là, pour l'instant, alors Silex and the City, je suis en train de travailler sur le long métrage pour le cinéma. Alors ça, c'est quelque chose un petit peu du temps long, donc ça sortira dans 2 ans, ce qui fait que les Gilets jaunes, on ne sait pas ce qui sera advenu. En revanche, la série 50 nuances de grec, qui est désormais toujours en épisode, là, j'ai commencé à utiliser dès maintenant les Gilets jaunes, parce que dans le magazine L'Histoire, je publie les pages de BD, il va y avoir le tome 2 de l'album 50 nuances de grec. Alors le principe, c'est la mythologie aujourd'hui, c'est-à-dire les dieux, les déesses, oui, les grands héros de la mythologie grecque confrontés aux problèmes d'aujourd'hui. Et là, justement, j'ai fait toute une page déjà qui va sortir sur le mouvement des toisons jaunes. C'est Jason qui occupe un rond-point à la sortie de Corinthe et puis qui veut bloquer tout le monde. Et est-ce que finalement on va arriver à supprimer l'impôt sur la foudre, etc.
Voilà, ça marche.
Et ça fonctionne évidemment aussi parce que Dans l'histoire, on a déjà en général les prémices de tout ce qui nous constitue aujourd'hui. Donc il suffit de creuser un peu profond et on trouvera toujours une pépite pour nous éclairer.
Alors on va passer justement à l'actualité de la semaine, Jules, avec ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. Cette semaine était celle du lancement du fameux grand débat national censé sortir le pays de la crise des Gilets jaunes.
J'y crois pas, ça va être de l'enfumage encore une fois.
Moi, le grand débat, je suis d'accord, je suis gilet jaune, mais je vais y aller.
Moi, je suis pas d'accord avec mon camarade. Le grand débat, on sait qu'il n'en sortira rien, parce que tout ce qu'il veut Macron, c'est endormir les gens et ne rien sortir de rien.
Les gilets jaunes partagés sur le grand débat national pour lequel Emmanuel Macron nous a écrit au début de la semaine. 6 pages en tout avec des dizaines de questions qui vont du vote blanc au service public en passant par les impôts. Mais sur l'ISF, le chef de l'État n'a pas changé d'avis. Il l'a répété mardi en Normandie devant les maires réunis pour l'occasion.
Est-ce qu'on vivait mieux avant? Bah non, il faut pas raconter des cracks. Hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe.
De la pipe ou du pipeau?
Merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé beaucoup de questions, animé ce débat et d'être resté jusqu'au bout.
Presque 7 heures d'échange avec ses maires plutôt méfiants au départ et des manifestants tenus à l'écart. Finalement, l'opération séduction a fonctionné. Mais attention, avec les gilets jaunes, ce sera une autre histoire.
Ils nous parlent de grand débat national, mais avec des sujets qui sont déjà exclus. C'est-à-dire qu'on va discuter des choses que je veux qu'on discute. Pas du reste. Il n'y a pas meilleur moyen d'exclure les problèmes en fin de compte.
Pour les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce grand débat ressemble fort à un piège.
C'est pas un grand bavardage dont on a besoin. C'est pas d'un grand blabla. C'est de la possibilité de pouvoir décider de tels sujets d'habitude. Ça se tranche dans une élection.
Quel débouché, dit Jean-Luc Mélenchon, alors que Laurent Wauquiez, lui, encourage ses troupes à participer à ce débat.
Je veux que nous nous engagions dans ce débat parce que si nous ne nous y engageons pas, nos thèmes seront oubliés.
Et comme les Français en auront le bol, eh ben ils voteront pour Marine Le Pen. Mais si ils entendent Laurent Wauquiez, eh ben ils entendront un autre son de cloche, ils entendront exactement la même chose, pratiquement, sauf que nous, on ne veut pas sortir de l'Europe.
Sortir de l'Europe, Marine Le Pen? Oui, mais finalement, non.
Nous étions pour la sortie de l'Union européenne durant la présidentielle. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls.
Et non, parce que maintenant, il y a les pays amis, comme la Hongrie, l'Autriche et l'Italie. Le Royaume-Uni, lui, vient de rejeter l'accord sur le Brexit à 2 mois de l'échéance. L'occasion pour Emmanuel Macron de dire tout le mal qu'il pense de ce genre de référendum.
C'est un référendum qui a été manipulé. Après, bon courage pour les représentants de la nation qui doivent mettre en œuvre un truc qui n'existe pas et l'expliquer aux gens, vous avez voté sur un truc, on vous avait menti. C'est ça, ce qu'ils ont dit.
Sous-entendu, on n'est pas prêt de faire la même chose en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Demain, c'est samedi, c'est manif, aux grandes dames des commerçants qui commencent à en avoir assez.
On rattrapera jamais ce que l'on a perdu au mois de décembre, c'est très clair. Moi, j'ai 2 boutiques et je pense que je vais en vendre une. 2 emplois à la clé puisque nous sommes 5 salariés.
Samedi dernier, encore des blessés dans les cortèges, des journalistes pris pour cible par des gilets jaunes, des manifestants victimes de tirs de flashball, plus généralement des gilets jaunes qui estiment qu'on les empêche de manifester.
Dans chaque rue où on veut aller, on est bloqué, on est obligé de faire demi-tour et 10 minutes après, on se retrouve dans la même situation. Donc on va se faire gazer de nouveau pour être dispersés.
Si ça bouge pas, vers quoi on va? Moi j'ai peur, hein. Tout peut arriver, guerre civile, totalitarisme. Moi j'ai jamais eu ça dans mes cours d'école, des gamins qui scandent des slogans politiques. Hein.
Ils comprennent pas ce qu'ils disent peut-être.
Ouais, probablement pas, mais qui voient que leurs parents sont révoltés.
Et encore merci à Jérôme Chélius. Jules, une réaction à cette actualité de la semaine?
C'est foisonnant, évidemment, donc il y a plein de choses à dire. C'est étrange. Moi, je sais que j'ai cette chance de pouvoir, justement, parce qu'il y a ces albums de bande dessinée, ces dessins animés, faire quelque chose de ma colère et de mon inquiétude. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand cette question de l'expression, du désarroi, de la colère, elle est centrale. C'est-à-dire que on est dans une espèce de société où la frustration est le moteur principal, cette société de consommation, cette société de masse, en même temps qui est très solidaire. La France, c'est quelque chose de remarquable si on compare aux autres pays du monde, donc on pourrait s'estimer chanceux. Et en même temps, il y a effectivement cette pauvreté, ces inégalités qui sont effectivement criantes, des gens qui s'en sortent pas, évidemment, et avec ce côté des réseaux sociaux. de Instagram où les gens montent leurs vacances externellement. On en a beaucoup parlé, cette espèce de société de la jalousie, cette espèce de en cascade de volonté d'être mieux ou moins bien que les autres, cette espèce de comparaison permanente
et
en plus
haine,
et cette arène qui est donnée aux réseaux sociaux pour faire des choses bonnes et surtout pour être complètement manipulé, puisqu'on voit bien que les algorithmes aujourd'hui font des espèces de micro-communautés autistes. Et en fait, ce qu'on peut dénoncer chez une, je dirais, classe dirigeante, financière, de choses comme ça, dans les manifestations aujourd'hui, c'est le fait de ne pas entendre les autres, qui est sûrement vrai, puisqu'effectivement, mais en même temps, qui n'est pas nouvelle non plus, il y a des micro-sociétés, des micro-communautés qui ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe autour d'eux, mais de la même façon, finalement, qu'on est enfermé dans un mouvement de contestation qui ne voit rien, qui ne voit plus rien du monde qui les entoure, il y a ce danger-là aussi. Donc, de pouvoir échapper et à une radio comme France Inter est encore suffisamment vaste et généraliste pour faire entendre une parole variée auprès de gens variés. Mais bien souvent, c'est plus tellement le cas. Et moi, j'ai dans mon travail, il y a ça, par exemple. Parce que moi, ça me frappe beaucoup avec Silex and the City, c'est vrai, mais aussi avec Lucky Luke. Ça fait partie, parce que je suis scénariste
maintenant de
cette série, mais du coup ça fait partie des choses qui échappent aux algorithmes, aux big data. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les familles, partout dans la société, en France, dans les gens puissants et riches, dans les gens populaires, on propose à chacun quelque chose qui est adapté à leur goût pressenti, à leur goût supposé,
c'est
à leur goût
à la carte,
passé.
Quoi.
Voilà, et c'est-à-dire que il y a la multiplication des écrans. Chacun a sa tablette, son ordinateur, son téléphone.
On reste dans son couloir.
Et dans une même maison, il peut y avoir 5 personnes, chacun branché sur un écran différent. Avant, on regardait l'ORTF, alors ça pouvait être complètement débile, mais au moins on avait du lavage de cerveau collectif. Là, c'est du lavage de cerveau sur mesure, et ça marche encore plus fort. Et du coup, quand on fait une série qui est justement populaire, parce qu'il y a ce terreau, cet humus, cette espèce de côté patrimonial comme Lucky Luke, et qui touche différentes générations, et on peut y avoir un échange entre des enfants, des parents, des grands-parents sur des choses, les gens ne le reçoivent pas de la même façon, ils peuvent en débattre, il y a cette espèce de chose collective, et puis Lucky Luke, ça se vend autant dans les supermarchés.
Je promets qu'on va parler de Lucky Luke, parce qu'en plus, le dernier album, il est carrément
génial. Mais en dehors de l'album, juste cette dimension-là, je dirais, de refaire du lien, de faire quelque chose qu'on a en commun, dont on peut discuter, c'est tellement précieux dans une espèce de moment de segmentation et de fragmentation qui, pour moi, je trouve très désespérante, sinon.
Voilà, mais alors à propos de fragmentation et de cette haine, je voudrais qu'on dise un petit mot des agressions qu'il y a contre les journalistes, mais aussi de la difficulté des dessins de presse, parce que il y a quelques jours, le dessinateur de presse Alex, que vous connaissez peut-être, Jules, a été menacé de mort suite à la publication d'un dessin dans le courrier Picard. Son dessin représentait un des leaders des Gilets jaunes, Éric Drouet, en oiseau victime de la chasse à la glu, face à Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait un Drouet jaune barbu complotiste à la cervelle de moineau qui colle à mes idées. Fascinant. Il a porté plainte. Je vous propose de l'écouter. C'est un témoignage recueilli par Rajera Mohamed.
On peut dire tout ce qu'on veut de mes dessins. On peut aimer, ne pas aimer. Ça, c'est le jeu. J'ai l'habitude. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Mais j'ai décidé de ne plus accepter de menaces de mort. Voilà, c'est tout. Je porte plainte. Tant pis si ce monsieur regrette ou quoi que ce soit. On peut tous dire des choses qui nous dépassent. Mais vu les antécédents, vu le contexte, il y a des gens aujourd'hui et je qui se font frapper, qui se font démolir, des journalistes, d'autres aussi. On peut parler aussi de violence policière, peu importe. Je ne mets pas non plus tous les gilets jaunes dans le même point, mais si on parle des casseurs, si on parle de ceux qui veulent intimider, si on parle de ceux qui ont un peu de regret de ne pas vivre en dictature, ceux-là même d'ailleurs qui réclament plus de démocratie, mais qui se conduisent comme des petits fachos, des dictateurs et qui menacent, ça oui, j'ai aucune pitié. Donc je porte plainte et ce sera le cas chaque fois que j'aurai une menace de ce genre, je porterai plainte et j'irai au bout, peu importe.
Il a raison, Alex, Jules ?
Évidemment, je pense que c'est quand même partagé par la grande majorité
arrive,
des gens qui entendent ça.
Non,
moi, ça m'arrive pas, ça pourrait m'arriver. La façon que j'ai d'appréhender l'actualité ou le monde qui m'entoure est très souvent indirecte. On disait ça passe beaucoup par des jeux de langage, des choses comme ça, ou des situations un petit peu paradoxales. Alors ça peut être très violent, très incisif, mais rarement frontal. Il y a des dessinateurs qui sont des dessinateurs coup de boule, qui rentrent dans l'art. Moi, c'est pas exactement ce que je fais. Moi, c'est un petit peu plus vis-l'art. C'est toujours un peu à double tranchant. Donc il faut déjà avoir une espèce de recul véhicule une espèce de rumination pour comprendre et recevoir mon travail. Donc ça m'évite d'avoir le côté impulsif justement de la menace de mort, du type qui veut aller casser la gueule à celui qui a dit ou fait quelque ou écrit ou dessiné quelque chose. Ceci dit, effectivement, il y a une brutalisation du débat ne se prête pas tellement à l'humour et au second degré. Le second degré, c'est déjà quelque chose qui nécessite un petit peu de temps. L'immédiateté des réseaux sociaux et cette espèce de brutalité du face-à-face que ça peut impliquer, c'est vertigineux, il n'y a pas vraiment de réponse aussi à donner. Alors, ce dessinateur qui, lui, porte plainte quand on le menace, en fait, c'est bien compréhensible. En fait, il faudrait juste que même les gens qui sont brutaux, même si c'est leur tempérament, même s'ils ont une colère, une saine colère, comme on dirait, et qui ont l'impression de ne pas avoir d'autres moyens que de l'exprimer, en fait, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils seront les premières victimes d'eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a une forme de autodestructive d'expression. Et en fait, voilà, il y a un effet boomerang qui sera bon pour personne, en fait. C'est un jeu de domino, c'est l'expression que je cherchais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est toujours le domino qui est derrière le précédent. Et il ne faut pas croire que, quelle que soit sa place dans la société, on ne va pas être impacté de manière assez sévère.
On va passer, Jules, au reportage de la semaine. Vous disiez tout à l'heure, il y a des choses que ce mouvement des Gilets jaunes fait remonter à la surface, et notamment le fait de peut-être des sujets dont on ne parlait pas et dont on parle aujourd'hui, qui sont importants. Le reportage de la semaine va nous conduire dans les Ardennes. Pour le magazine Interception, Géraldine Allot est allée à Vrigne-Meuse, c'est à l'est de Charleville-Mézières. Elle a rencontré Cécile, 45 ans, coiffeuse à domicile. Elle l'a suivie chez Elena, c'est une de ses clientes. Point commun entre les deux, elle ne roule pas sur l'or, c'est le moins que l'on puisse dire.
Il est 7h30 du matin, le jour ne s'est pas encore levé et Céline, 45 ans, coiffeuse à domicile, est déjà sur les routes pour rendre visite à ses premiers clients.
On va aller chez Elena, une petite mamie retraitée. Et voilà, on y va. Bonjour Elena. Ça va, Elena?
Ça va, tout doucement.
Ben
oui, tout doucement.
On va vous faire belle?
Ben, on va essayer, quoi.
Ouais. Je lui lave les cheveux, puis on revient là, de toute façon. Hein? Faut attendre l'eau chaude.
Ah, ben, faut attendre l'eau chaude. Oh non! Si, on a de l'eau chaude.
Faut espérer, hein.
Ah, ben, ma foi, on fera l'eau froide, mais là, c'est pas trop recommandé.
Ben oui.
Ça n'arrive pas?
Non, maison vieille. Ouais, c'est pas très chaud, hein.
Ah. Elena, ça fait longtemps que Céline vous coiffe?
Oh oui, 15-20 ans.
Et vous la voyez tous les combien, à peu près?
Il y a des fois tous les 3-4 mois. Là, c'était au mois de juillet.
Oui, mais bon, c'est pareil, Elena, elle a pas une grosse retraite, hein?
Non,
faut dire ce qui est, voilà.
Elle est de combien votre retraite, Elena?
Dans les environs de 600 euros par mois. C'est la reversion de mon mari qui est décédé. J'ai travaillé dans une boulangerie à Brigny-aux-Bois, mais je n'étais pas déclarée.
À l'époque, ça se faisait beaucoup, hein?
Oui, oui.
Vous payez combien de loyer?
280 à 315.
Donc il vous reste 300 euros pour vivre?
Oh oui, il y a des fois à peine.
Parce que tu as la mutuelle aussi.
Et puis la mutuelle.
La mutuelle, bon, ben, l'assurance habitation.
79 euros tous les 3 mois. Alors sur un mois de retraite, il ne me restera du tout.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Elena? Que votre retraite augmente?
Ben oui, un petit peu quand même. Oui, dans le temps de la grève de 68. Que toutes les usines, toutes les écoles, tout ça ont été fermées, ça devait être De Gaulle qui était là à ce moment-là. Mais lui, il avait l'air encore d'écouter un peu les gens. Mais tandis que celui qu'on a là en ce moment, il n'écoute rien du tout.
Emmanuel Macron?
Oui.
Vous, Céline, vous ne gagnez pas énormément non plus. Ouais. Vous gagnez combien par mois?
Dans les 900 euros. Quand je travaille bien.
Pourquoi aussi peu?
Ben parce que j'ai beaucoup de charges. La RSI, les assurances. Il ne me reste que 900 euros de revenus.
Et vous travaillez à peu près combien d'heures par semaine?
Je peux commencer à 7 heures du matin et rentrer à 8 heures du soir. Mais je ne compte pas mes heures. Si, de toute façon, si tu veux gagner ta vie, il faut pas compter ses heures. 8 heures par jour, tu gagnes rien, hein, de toute façon. Moi, je pars pas en vacances. Je suis pas partie en vacances. Ça fait 30 ans que je suis dans le travail. La seule fois où je suis partie en vacances, c'était 15 jours à Malaga. J'ai 45 ans. En fait, j'ai jamais rien vu, quoi. Je suis même jamais allée sur une plage en Méditerranée. Je suis pas malheureuse pour autant, hein, c'est pas la question. Mais je me dis, arriver à 30 ans de travail et puis 45 ans, t'as même pas les moyens de partir en vacances.
Un reportage de Géraldine Allot que vous retrouverez en longueur dimanche matin sur France Inter à partir de 9h10 dans le magazine Interception. Jules, je vous voyais écouter ça avec beaucoup d'attention. Vous faites encore des dessins de presse pour, vous disiez tout à l'heure, l'histoire pour l'UMA aussi?
Pour l'histoire, pour l'UMA, j'ai travaillé pour plein de médias assez variés finalement, avec toujours un peu mon style à moi, hein, que j'essayais pas de m'adapter aux différents supports. C'est vrai que c'est un rythme particulier, le dessin de presse, et le côté justement... Plus il y a eu le développement d'Internet, de Twitter, des différents réseaux sociaux d'aujourd'hui, moi j'ai eu envie, je dirais, de ce côté immédiat du dessin de presse. Et j'ai eu envie de prendre un peu plus de temps pour raconter les choses.
Dans quelques jours, il y a le Festival d'Angoulême. Festival incontournable hein, pour les amateurs de BD, pour lequel vous avez réalisé une petite série, enfin une vraie série, Colloque of Duty. C'est quoi? C'est des BD avec des personnages qui vivent en colocation et
alors
qui
oui, s'exercent
au développement durable, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il y a un partenariat entre l'AFD et le Festival d'Angoulême. Alors l'Agence Française de Développement, ils sont chargés notamment de faire appliquer au niveau de la France les engagements de l'ONU sur les questions de répartition des richesses, sur les questions de développement des pays du Sud, des pays pauvres, faire respecter tous les engagements financiers de la France notamment. Donc il y a plein d'enjeux, c'est une agence assez pléthorique et il y a une dimension de sensibilisation et notamment aux plus jeunes générations à tous ces grands sujets. Moi, je suis un peu un Khmer vert au départ. Mes sujets sont vraiment très axés sur cette question de l'environnement parce que je pense que c'est un peu l'alpha et l'oméga de tous les autres problèmes. Les choses reposent énormément là-dessus. Donc, quand on m'a proposé de faire un album à toute vitesse, finalement, en inventant un strip avec des personnages, vous voyez, un peu Friends, la série, c'est la même chose, mais sur ces questions, c'est une colocation. Alors, vous connaissez le jeu vidéo Call of Duty, donc là, c'est Colloque of Duty, et il y a ces petits personnages comme ça, et donc, à la fois, on va monte sur les réseaux, mettre une page tous les jours, comme ça, jusqu'à proposer l'album en entier. Puis aussi, il y a un album qu'on a imprimé, qui va être distribué pendant ce festival, pour rappeler un petit peu ces questions d'égalité, de répartition des richesses, des questions sur le genre aussi, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, d'accès aux soins, à l'éducation. Et ces trucs-là qui sont un petit peu chiants, ça peut être très préchi-précha d'avoir ces espèces de petits manuels comme ça sur le développement, de le faire de manière un peu paradoxale et marrante avec ces personnages-là, moi, ça m'a paru important et vertueux. À la fois, je me rachète un peu mon paradis, et puis c'est juste rigolo à faire. In Washington.
Jones, The Indications, Morning in America, choix musical signé Djoubaka pour une semaine en France.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Jules.
On ne peut pas s'empêcher de bavarder même quand les micros sont fermés.
Mais oui, ouais. Mais alors on va quand même dire un petit mot de votre parcours, Jules, même si on le connaît en grande partie. Vous avez 44 ans, vous avez grandi à Champigny-sur-Marne dans la région parisienne. Parents prof, vous l'avez dit tout à l'heure, maman prof de lettres, papa prof d'anglais. De la maternelle à la fin du collège, vous êtes allé à l'école, on dit comment, De Crolly. Voilà, alors ça, pédagogie différente.
Voilà, ça fait partie de ces écoles expérimentales comme ça, où il n'y a pas le côté casernement qu'il peut y avoir dans l'éducation classique. Donc on encourageait un petit peu toutes les expressions, notamment artistiques. Et moi, ça m'a un petit peu permis de pas vraiment avoir ces limites sociales qu'on donne aux enfants, d'avoir ces espèces de contraintes extérieures.
Et ça vous a pas empêché après d'aller dans les écoles les plus sélectes des beaux quartiers, puisque vous êtes allé à l'école alsacienne à Paris, évidemment, époque Cagne-Cagne, normale sup, agrégation d'histoire. Vous avez même enseigné l'histoire, spécialité, l'histoire chinoise, c'est bien ça. Ce parcours d'excellence, Jules, c'est pas la voie royale pour devenir dessinateur de presse. Vous avez même pas appris le dessin, c'est ça?
Non, ça je regrette. Par contre, effectivement, j'aurais pu peut-être acquérir un savoir-faire technique, faire des très belles anatomies, des grands portraits de villes en perspective. Ça, je sais pas le faire. Alors, je fais avec mes manques, mais justement
en tout,
tout
cas,
ça.
À 7 ans, vous avez lancé votre journal, le Julien Déchaîné.
Voilà, en fait, moi, voilà, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu cette espèce de recul et ce besoin par l'humour de prendre un petit peu de la distance avec ce qui nous entourait. Et donc, j'ai continué jusqu'à maintenant. Et de toute façon, que ce soit mes études en histoire, mes études sur la Chine, mais aussi mon goût des choses de culture populaire, tout simplement, des chansons de variétoches, des clips à la télévision, des bêtises qu'on peut écouter tout le temps, et puis des conversations au bistrot ou dans le métro. Moi, c'est là où je travaille le mieux, et tout ça, je m'en nourris. Et en fait, il y a ça a vocation, que ce soit Silex and the City ou 50 nuances de grec, à tout embrasser. C'est un peu des dimensions de saga. Moi, c'est ce que j'aime bien souvent dans l'art, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie a priori entre ce qui serait quelque chose pour les élites et quelque chose de très populaire. Je pense qu'on est constitué tous autant qu'on est, que ce soit gilet jaune ou palais doré, de la même pâte.
À 11 ans, vous avez remporté le concours jeunesse du Festival d'Angoulême. En 2007, il y a eu le prix Goscinny. Et aujourd'hui, vous êtes devenu Goscinny, Jules, puisque c'est vous le scénariste de Lucky Luke.
Un peu comme Isnogout et Calife à la place du Calife. Goscinny à la place de Goscinny.
Sacré défi, mais n'empêche que c'est réussi.
C'est une grande fierté. Et puis effectivement, là, ça fait mon deuxième album de Lucky Luke.
Il y a eu La
là.
Terre Promise. Et puis donc le dernier qui est sorti fin 2018, Un Cowboy à Paris.
Voilà,
génial.
Et ça,
franchement,
oui, ça vous a plu?
Ouais, c'est génial. Vous convoyez la Statue de la Liberté aux États-Unis, c'est ça?
Et ça a bien fonctionné.
Lucky Luke accompagne Bartholdi.
Ouais. Et là, c'est effectivement pour la première fois, il traverse l'Atlantique, il vient à Paris et c'est lui qui est missionné pour accompagner la statue. Évidemment, il va rencontrer tous les contemporains de cette époque à Paris, que ce soit Rimbaud qui ressemble à Billy the Kid, que ce soit Victor Hugo. Il se fait draguer par Madame Bovary. Puis cette espèce de mélange de fiction et d'histoire, et puis le fait de nourrir vraiment avec des trucs historiques, ça permet de faire quelque chose de riche. Et puis on se rend compte que dès que c'est nourri réellement. Il y a plein d'échos avec aujourd'hui. Évidemment, on pense à Donald Trump, son mur avec les Mexicains, parce que le méchant, il ressemble.
Il y a toute l'actualité dedans. Il a des enjeux. Mais en même temps, on croise Victor Hugo, Rimbaud, Verlaine.
Alors à la fois, c'est pas anachronique, et en même temps, c'est un grand miroir pour aujourd'hui. Et ça, c'est troublant parfois.
En tout cas, on sent que vous avez grandi avec Lucky Luke, parce qu'on retrouve complètement l'univers. Les dessinateurs qui vous ont marqué. Vous, quand vous étiez petit, il y a eu...
Alors, pour remonter par ordre inversement chronologique, moi, Pétillon, c'est lui qui m'a donné envie vraiment de passer à la bande dessinée, de sauter du pas du dessin de presse vers la BD. Et évidemment, L'Enquête Corse, pour moi, c'est un des albums cultes que j'ai eu. Mais ensuite, il y avait différents mamelles auxquelles je me suis allaité. Et ça va de Rézère à Sampé, qui pour moi sont des espèces de dieux vivants du dessin. Et évidemment, la base, le terreau, l'humus, c'était Goscinny, Gottlieb, ces dessinateurs et ces scénaristes qui sont du côté de l'humour et qui ont permis de créer, je dirais, un terreau commun national en utilisant à la fois la grande culture populaire, des choses que tout le monde connaissait, et puis en créant des univers incroyablement singuliers, irremplaçables. Et moi, ça m'a rendu heureux, ça m'a permis de vivre et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que, en me mettant dans leur ombre, dans cette filiation-là, je suis évidemment pas le seul, de pouvoir continuer cette espèce de mission salutaire, de voilà, d'avoir une petite lanterne dans la tempête, quoi.
Alors nous aussi, on a une rubrique qui est là pour rendre heureux. C'est les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Elle vient d'arriver dans ce studio. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Et ce soir au programme, Jules, dictée coquine, figurez-vous.
J'ai un peu peur.
Ah bah, non, vous rassurez-vous, ça va le faire. Deux passionnés de la langue française organisent depuis 2 ans à Paris des dictées libertines pour réconcilier les Français avec l'orthographe et la grammaire, Sandrine.
Elle porte des petites culottes roses avec un S. C'est quand même plus sexy qu'elle achète des pots de fleurs orange, pas de S, quand on parle des accords de couleur. Elle s'est permis ou permise d'apporter son godemichet. C'est quand même plus glamour qu'elle s'est permis ou permise d'écrire à son banquier pour les accords de participe passé. La dictée coquine, c'est rendre excitant un exercice qui, en tout cas dans nos souvenirs d'enfant, ne l'était pas forcément.
Alors l'érotisme n'est qu'un prétexte, en fait. L'idée, c'est de progresser.
C'est ça. Aurore Ponsonnet et Sandrine Campez écrivent elles-mêmes leurs textes. Elles y insèrent toutes sortes de pièges. Et à l'issue de la séance, évidemment, on corrige tous ensemble et on explique.
Ces dictées font 400 mots. Elles durent 2 heures, chaud devant.
Bonjour, c'est votre première dictée ?
Bienvenue. Ici, il y a de la place, par exemple.
Tu veux un stylo ? On a un ? Qui n'a pas de stylo ?
Ils sont une cinquantaine à lever le doigt.
Allez.
Là, vous êtes un peu à l'école, là, tous. Là.
Ah ouais.
C'est plutôt bien.
À 50 ans, on a pu l'occasion de rencontrer une copie double perforée avec des grands carreaux, une marge rouge comme ça, quoi.
Pourquoi vous approuvez ?
Parce que moi, j'adore. C'est un petit parfum d'enfance, quoi. On sent presque l'odeur de la colle.
Je vais distribuer les copies. Non, il y a un numéro.
Vous préférez quelle dictée ? Celle de l'école ou celle d'ici ?
Ah bah, il n'y a pas trop de doute à avoir, quoi. Je suis un membre actif, comme on dit. Je pratique aussi souvent que possible.
Et vous aimez ça ?
Ah mais on peut prendre beaucoup de plaisir avec un stylo.
Il a tout dit, c'est l'intérêt de la dictée coquine, Aurore Ponsonnet.
On organiserait des dictées sur la gastronomie, peut-être ça attirerait moins de monde. Vraiment, les Français et l'érotisme, bon, c'est une histoire d'amour. Hein. On a peut-être tous rêvé, si on avait une prof de français un peu sexy, qu'elle nous dicte Cunilingus. Hein. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui !
Alors, l'art subtil du planter de bâton.
Oh la vache,
c'est assez jouissif.
Ils s'installèrent près du poêle, enfin du poêle, du poêle qui tient chaud.
Votre prénom, madame ?
Marielle.
Marielle, vous avez le sourire jusque-là ?
Moi, je suis toujours ravie quand je viens à la dictée coquine, donc...
Pourquoi ?
C'est un moment frais. Et on apprend toujours des choses.
C'est l'objectif.
Le but, c'est quand même de transmettre des règles d'orthographe et de grammaire. Nous introduisons des difficultés orthographiques. Introduire, c'est le cas de le dire. Calipige, comment s'écrit calipige, qui veut dire à de belles fesses. Ityphalique. Une statue ityphalique, c'est une statue qui a le sexe dressé.
Et cunilingus, est-ce qu'il faut un N ou deux N à cunilingus ?
C'est vrai qu'on le fait, mais on ne l'écrit jamais.
Mais c'est dommage.
Est-ce que vous pourriez répéter ?
Quand il apparut derrière elle.
Derrière elle.
C'est chaud. C'est chaud. Hein.
Dans sa culotte soyeuse. Est-ce qu'il y a un point après soyeuse ou pas ?
Il y a quoi après culotte ?
Sentit la cyprine.
La cyprine ?
La mouille.
Sympa.
Sur ses doigts, point.
Les doigts de qui ? De Maxence.
Ils ne purent retenir plus longtemps l'orgasme.
Ah ! On y vient quand même.
C'est un mot sympa, ça, j'aime bien.
2 ans de dictée coquine, 2 ans de succès.
On écrit beaucoup plus qu'avant. Vous savez, avant, il y avait des secrétaires, on écrivait sur du papier, on pouvait corriger, se relire, on prenait le temps. Maintenant, on est tous sur un ordinateur, on est tous en train d'envoyer très très vite les courriels. Les correcteurs sont surtout pour l'orthographe lexicale. Donc les gens savent qu'il y a un problème en orthographe. Ils veulent juste trouver un moyen peut-être différent de s'améliorer.
Vous avez des doutes, madame ?
Oui. Il s'était tourné autour. Est-ce qu'il y a un S à tourner ?
Pas de S.
Moi, je mettrai S. Il s'était tourné autour de qui ? De ce. C'est un COI, un complément d'objet indirect. L'accent aigu, on n'accorde pas.
C'est vraiment vicieux. C'est une vraie dictée coquine.
C'est une vraie dictée coquine. Il y a du vice.
Isabelle.
J'ai fait beaucoup de fautes sur les accords. Pour moi, c'était avec le verbe être. Forcément, il y avait un accord. Et c'est pas ça du tout. En tout cas, pas forcément.
Olivier.
Effluve. Je savais pas du tout que c'était masculin.
Il y a le côté marrant et le côté utile.
Ah ouais, c'est hyper utile. On apprend vraiment des trucs.
Amélie.
On réapprend, en fait. On réapprend les règles de grammaire qu'on nous a appris il y a de ça 25 ans, 30 ans. Et en fait, on y prend beaucoup plus de plaisir. Parce qu'en fait, on n'a pas de pression et que ça nous permet, en sortant du boulot, de passer un moment hyper sympa, de parler, on va se le dire, on parle de cul. Hein, et finalement, c'est ça qui nous fait tous rire. Donc, c'est très bien.
Ouais.
C'est marrant. Ouais.
Ah bah merci Sandrine Houdin pour ce magnifique reportage sur la dictée coquine. Toutes les infos sur ladictéecoquine.fr. Prochaine date à Paris, 21 février, 21 mars, c'est ça. Et puis, si vous n'êtes pas dans la région parisienne, Sandrine Campès de la dictée coquine a publié, vous m'avez dit, 250 dessins pour ne plus faire de fautes. Aux éditions de L'Opportun.
Ouais, c'est moins érotique, mais tout aussi efficace. Mais
il devrait essayer la même chose, les dictées érotiques, avec les déclarations de Macron, parce que son truc de le retrait de l'ISF, c'est de la pipe. J'ai vraiment toujours pas compris cette expression.
On pourrait le mettre dans le prochain album Silex and City. Jules, l'émission se termine. Un petit mot de ce qui se passe. Donc, on a dit Angoulême dans quelques jours. Et puis, c'est quoi Tougoul?
Ah oui, parce que alors là, cette semaine vient d'être lancée une application qui est un réseau social sur le foot. Alors moi, je viens très très loin du foot. J'avais parlé du Primat Saint-Germain, de l'Olympique Mammouth, dans Silex and the City. Ça leur a donné envie de m'appeler en fait pour faire plein de dessins dans cette nouvelle application qui s'est ouverte. Et c'est une façon d'avoir un réseau social qui n'est pas un truc raciste ou violent, mais d'avoir à la fois plein de postcards, des journalistes sportifs, des spécialistes du foot. Moi, je découvre complètement en néophyte ce monde-là, et c'est assez marrant. Et Tougoul, du coup, il a ouvert il y a 2 jours ou 3 jours. Du coup, tout le monde est en train de s'inscrire sur cette appli. Et ça, c'est plutôt marrant d'explorer des nouveaux univers. Moi, ça me nourrit. Et probablement, ce monde du foot, je l'utiliserai aussi. Par exemple, le prochain 50 nuances de grec, il y aura toute une équipe de dieux grecs qui veulent créer leur équipe de foot, et ça va être un problème de mercato mythologique. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui aura aussi un écho dans Tougoul probablement.
Toujours branché sur l'actualité. Jules, vous écoutez la radio, évidemment. Je crois que vous avez dit un jour, mon public écoute France Inter et lit Télérama.
Oui, parce que je m'inspire en général de ma mère. Oui, mais j'ai l'impression, voilà, c'est ça. Merci de m'accueillir à la maison.
C'est votre maison, c'est la maison de vos lecteurs. Un grand merci, Jules. Je rappelle donc les deux derniers, Silex and the City, l'homme de Macron,
qui prophétique,
parfaitement d'actualité, et un cow-boy à Paris. Ça, c'est Lucky Luke. Une fois, c'est le dessin, une fois, c'est le scénario. Ben ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. Pourquoi est-ce que vous changez de rôle de temps en temps? Mais on en parlera une autre fois.
Et ben voilà.
Un grand merci.
À bientôt.
Dans quelques instants, le journal de 19h de Sébastien Paour. À 19h20, le téléphone sonne ce soir. Question sur les inégalités en matière d'accès aux services publics. Nous serons avec Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, Nicolas Canonou, directeur de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits chez le Défenseur des droits, François Tollel, qui est professeur de géographie à l'Université de Toulouse. Surtout, appelez-nous pour en parler au 01 45 24 7000, surtout si vous habitez justement une zone ou un territoire dans lequel les services publics se font rares.